Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a différentes manières d'envisager la vie, la concevoir comme un temps donné dans le but d'essayer de bien vivre, heureux tout simplement. La regarder comme une grande aventure, une épopée, un combat contre des ennemis, surtout extérieurs, ou comme une mue intérieure, un chemin d'illumination, comme disent certains, de nouvelle naissance, comme disent d'autres. C'est en tout cas la conviction de mon invité de ce matin, notre témoin de ce carême 2019. Dieu peut-il guérir ? C'est donc le thème de cette émission ce matin, quatrième du genre, notre grande série de carême, avec Daniel Desbois, psychologue et donc cofondateur des Agapés, ces retraites de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous, avant-dernière émission donc avec vous. Peut-être peut-on revenir très rapidement sur les différents thèmes. Le premier thème de notre émission, de notre série de carême, c'était le thème de la conversion. Le deuxième et le troisième, je vous laisse peut-être les introduire.
Le deuxième thème, c'est-à-dire une fois qu'on a entrepris cette conversion, on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés à quitter justement nos passifs. Et c'est vrai que la conversion fait appel nécessairement à la résistance, au changement. C'est-à-dire je veux, on me dit, le Seigneur me dit en début de carême, convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Ok, j'entends ça. Convertissez-vous, ça veut dire changer d'attitude. Mais le changement d'attitude est quelque chose de difficile, parce que comme si l'homme n'était pas fait pour le changement. C'est-à-dire qu'on a une telle habitude d'être dans la sécurité, d'être dans le déjà connu, qui nous fait du bien.
Donc le deuxième thème, c'était ?
C'était le changement, la résistance au changement.
La résistance au changement. Troisième thème, on a vu donc les blessures d'identité.
Blessures d'identité.
On va y revenir rapidement. Oui. Et aujourd'hui, quatrième volet.
On va entamer la connaissance, c'est-à-dire que dans la mesure où on a vu justement les blessures d'identité, on va voir que les blessures entraînent en conséquence des... Sur une innocence blessée, entraîne des comportements défensifs hein, qui nous protègent, mais en même temps qui à un moment, à mesure que les années passent, vont m'amener à être plus responsable de ma vie. Et là, je vais toucher, sur le plan spirituel, je vais toucher ce que l'on appelle le péché capital.
Alors, on va, au ce début d'émission, refaire un petit peu de pédagogie. Hein, pardon pour ceux qui ont suivi attentivement les trois précédentes. Mais on s'est dit que c'était important. Une fois de plus, vous reprenez donc cette image, hein, être en Égypte, aller au désert pour un jour rentrer en Terre Sainte. Rappelez-nous à gros traits d'abord ce qui se vit. On aurait tous en fait une forme d'esclavage qui serait le résultat de blessures intérieures, de ouais. blessures en fait d'enfance, ouais. Et qui ferait qu'on aurait des modes de fonctionnement ou des serments intérieurs ouais. qui nous rendraient en partie prisonniers.
Oui. Alors, c'est vrai que sur le plan psychologique, on va dire un mode de fonctionnement, quand on n'est pas chrétien, on dit, quand on arrive à comprendre un mode de fonctionnement qui nous enferme, qui nous coince, qui nous enlise, qui nous amène à souffrir, on va dire, il suffit de changer de comportement. Mais sur le plan, et c'est notre approche, c'est une optique que nous avons qui est théologale. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de connaître nos chemins de survie, c'est-à-dire mes modes de fonctionnement pour connaître mes modes de fonctionnement. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître effectivement mes modes de fonctionnement en vue de déloger le péché capital qui, malgré moi, m'entraîne dans des difficultés et vient me blesser mon âme et le cœur de Dieu. Donc c'est vraiment dans cette optique de connaître le péché capital qui va être délogé en vue d'amorcer une vie morale et vertueuse qui va petit à petit déloger et défaire ce péché capital.
Alors vous citiez un exemple hein, pour cet esclavage. En l'occurrence, vous avez eu l'élégance de parler de vous à deux reprises, de votre père qui était un homme formidable à vous entendre, mais qui avait parfois la main lourde, hein, qui était un ouais, boxeur, ouais. et avec cette conviction que vous aviez acquise étant enfant, comme une espèce de mantra intérieur, un jour je serai plus fort que toi, ouais. jusqu'au jour où vous avez compris en fait dans quelle ouais. forme d'esclavage vous étiez enfermé. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur ces fameuses trois blessures initiales dont on a parlé la semaine dernière, à la suite donc de Saint Jean-Paul II, trois blessures d'identité, vous pouvez les reciter ?
D'accord, alors les trois blessures d'identité, les trois blessures évoquées aussi par Jean-Paul II, c'est la blessure d'identité. La blessure d'identité, très rapidement,
oui, trois blessures,
c'est
ce que
c'est.
Oui.
Les trois blessures, c'est la blessure d'identité, de communion et de participation. Donc la blessure d'identité, c'est quand je vais faire du mal. Jean-Paul II dit tu ne détruiras pas l'autre. En fait, ça veut dire que dès l'instant où un enfant n'est pas accueilli avec amour, n'est pas entouré de tendresse, etc., et puis surtout s'il est rejeté parce qu'on ne l'attendait pas, parce que c'est le sixième d'une fratrie déjà assez lourde, on n'a pas envie encore de se surcharger, parce que c'est un garçon et pas une fille, ou une fille et pas un garçon. Vous voyez, ce sont des blessures qui marquent le cœur de l'enfant dans son identité, parce qu'il n'est pas ce qu'il devrait être. Ça, c'est la blessure d'identité. Donc, tu ne détruira pas. Jean-Paul II a ensuite parlé de la blessure de communion, qu'il traduit lui en ces termes tu n'useras pas l'autre. Tu n'useras pas l'autre, ça veut dire, donc, dans l'esprit de Jean-Paul II, c'est pas par le faire que tu vas gagner l'amour. Tu vas gagner un amour. Mais cet amour, c'est un amour frelaté, parce que tu l'auras eu au mérite.
Alors vous citiez la semaine dernière l'exemple de cet homme dont le père lui avait fait comprendre qu'il n'était qu'un moins que rien, et où il avait passé sa vie à essayer d'avoir une position sociale qui lui prouve le contraire.
Donc c'est un homme qui a été bafoué par son père et qui a voulu lui prouver qu'il était un petit peu comme moi aussi, hein, plus fort, qu'il était quelqu'un de bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a une entreprise, il a bien réussi dans sa vie. Et puis quand il a été au sommet de sa gloire, entre guillemets, il a été de manière très provocatrice, exposé à son minable de père. Voilà ce que ton minable de fils est devenu, avec la grosse voiture et puis tout le clinquant qu'il pouvait y avoir autour. Manque de chance. Un an après, parce que quand ce sont des personnes comme ça qui se donnent tellement pour réussir qu'à un moment, elles se cassent la figure. Et là, il est plongé par un burn-out, hein, dans ce cas-là, il est plongé dans un burn-out qui le renvoie à une intelligence qu'il n'avait pas, à laquelle il n'avait pas accès jusque-là. Il se rend compte que, en fait, il n'est pas si exceptionnel que cela, puisque quand on arrive à ce stade d'être dans une dépression de laquelle il n'arrivait pas à se sortir, parce qu'un homme qui est si haut, qui a une telle réussite, il n'a pas le droit de tomber. Il n'a pas le droit de tomber en plus en dépression. C'est lamentable, quoi. Alors qu'en fait, la dépression, ça peut être quelque chose, au contraire, de survalorisant, parce que la dépression est là juste pour m'aider à donner sens à ce que je vis. La dépression, ce n'est pas une catastrophe, c'est une occasion, une opportunité de donner sens à ce que je vis. Et cet homme-là, il a donné sens par sa dépression à ce qu'il a vécu. Il s'est rendu compte qu'au fond, son père, c'était un brave type, certainement malheureux pour qu'il arrive à lui dire ce qu'il lui a dit. Et sa vie a été, en fin de compte, une vie d'orphelin, parce qu'il s'était coupé de son père. Et sa seule joie, ça a été de le retrouver pour lui demander pardon.
Donc ça, c'est la deuxième
blessure.
C'est
la deuxième blessure qui est la communion. La troisième...
Blessure de participation.
La troisième, la blessure de participation, c'est, selon Jean-Paul II...
Tu ne dévaloriseras pas, c'est ça ou...
C'est ça, tu ne diminueras
pas. Tu ne diminueras pas.
Voilà, mais c'est pareil, tu ne dévaloriseras pas la personne, surtout la parole de ton enfant, la parole en tant que responsable, même tout ce qui est figure d'autorité, n'a pas le droit de diminuer l'autre, de faire à la place de l'autre, de vouloir à la place de l'autre. Et là, dans le tu ne diminueras pas, c'est la parole de l'autre. L'autre a le droit d'avoir un désir, a le droit de s'exprimer. Et quand la personne est trop diminuée, elle se tait. Elle est dans la honte, elle est dans la culpabilité. Donc elle est incapable de faire des choix. Et alors c'est vrai que cette diminution est une catastrophe, parce que la personne, elle a du mal à s'engager dans la vie. Donc certains managers, à une époque, j'accompagnais des managers, et je leur demandais, mais est-ce que vous félicitez vos gens quand ils font du bon travail ? Mais la réponse, mais c'était systématique, ils me disaient, mais ils sont là pour bosser, ils sont pas là pour être félicités. Mais je leur dis, mais attendez, mais quand ils font quelque chose de pas bien, vous les engueulez ? Ben évidemment qu'on les engueule. Donc, on n'a pas le droit aux félicitations, mais on a le droit à l'engueulade. Vous voyez, c'est le paradoxe d'un mauvais manager, ça.
Donc, si on doit résumer un petit peu le chemin, On aurait tous donc des formes d'esclavage issues donc de ces blessures ou de, les manières, de la manière dont on a pris des choses dans, dans notre prime jeunesse. Le tout est d'entendre un appel à rentrer au désert, donc déjà de se rendre compte qu'on est en esclavage. Dans ce temps de désert, vous dites qu'au cœur du désert, donc, il y a entre autres ces trois blessures initiales qui nous mettent sur un chemin. Et alors ce chemin sur lequel elles nous mettent, c'est ce que vous appelez les chemins de survie. Alors j'espère qu'on ne perd pas les auditeurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous des mécanismes de survie. Oui. Et c'est ce qui explique qu'on peut tourner aussi longtemps dans le désert. Expliquez-nous davantage.
Voilà. Alors, en fait, quand on est blessé, il est évident que ça soit jeune, que ça soit un enfant, que ça soit un adulte, de toute façon, quand on est blessé, on a la possibilité soit de se défendre, soit de fuir, soit de rester tétanisé là sur place. Eh bien, un enfant, quand il va amorcer dans sa petite vie avec, selon les éducateurs, le papa, la maman ou les éducateurs qu'il a, dans la mesure où il va être blessé, nécessairement, il va se positionner parce qu'il est obligé. Il ne peut pas, soit il est tétanisé et puis il va rester figé dans sa vie et pendant des années, soit ça va être un enfant qui va se défendre, soit c'est un enfant qui va être soumis. C'est un petit peu caricatural, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, dès l'instant où je suis blessé, je vais me défendre. Mais dès l'instant où je me défends, mais je ne peux pas faire autrement, puisque c'est l'innocence qui est blessée. Il n'est pas responsable. Ça n'est pas de sa faute s'il se retrouve à se défendre contre l'autorité. Contre l'autorité, ça veut dire contre un moment, contre l'amour. Ceux qui devraient l'aimer, il va se révolter. Il va être en opposition contre. Ce qui veut dire que derrière, mais en filigrane, il y aura le péché qui va être là, sachant que le lieu des blessures, ça va être le lieu du péché. C'est pour ça que je crois qu'en la première émission, j'avais dit que Catherine Emmerich, quand elle avait des apparitions, le Christ, dans toute sa gloire, était...
Catherine Emmerich, c'est donc une mystique autrichienne, hein, c'est ça, c'est la fin du 19e siècle.
Ah, oui, exact. Et cette Catherine Emmerich, quand elle avait les apparitions du Christ, toute la gloire de Jésus, du Christ, c'était dans les blessures. Parce qu'il est venu pour cela. C'est dans nos blessures qu'il y a le péché. Alors, première opération, c'est ce qu'on a fait. On a dit, mais l'enfant, il faut le prendre aujourd'hui, il a 40 ans, il a 50 ans, peu importe. On va d'abord, le Seigneur va d'abord le consoler. Avant de désigner un péché, on n'est pas là pour désigner le péché, on est là d'abord pour accueillir l'innocence blessée, le prendre, le chérir,
c'est
le
consoler. C'est donc la prière de consolation.
C'est la prière de consolation. Et ensuite,
prière de libération.
Il va y avoir la prière de délivrance. C'est que il y a trois ennemis qui vont tarauder en fait l'âme de la personne. Ça va être, dans la mesure où je me défends, il va y avoir nécessairement soit un acte de mort symbolique. Hein, ça ne veut pas dire que je vais tuer l'autre, mais je peux tuer psychologiquement. Soit de mort, soit de haine. Soit de mensonge. C'est-à-dire qu'on a... en fait, je disais que l'homme a été créé bon. Il a été créé pour faire du bien. C'est-à-dire qu'il a été créé pour l'amour. Et quand on est créé pour l'amour, on est créé pour la vie. Quand on est créé pour la vie, on est créé pour la vérité. Donc amour, vie et vérité sont les trois colonnes qui vont permettre à une personne d'avoir une belle identité, de pouvoir communier totalement et de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Avec les autres et dans l'Église.
Alors, merci pour cette première partie d'émission de rappel. Pardon pour les auditeurs qui auraient suivi ça point par point, mais je pense que c'était bien nécessaire. J'ai une question, c'est une question d'une certaine manière qui nous a été posée par les auditeurs, parce que j'ai cru comprendre que cette série était suivie. Que faire si on a envie d'aller plus loin? Alors, probablement qu'on, dans la dernière émission, on donnera des pistes conséquentes et entre autres des pistes bibliographiques. On peut imaginer, et je crois qu'on vous a fait la remarque, que tout d'un coup on découvre en fait la possibilité d'un chemin intérieur. Faut-il la seule réponse est-elle d'aller faire une retraite de guérison, une agapée au Puy-en-Velay?
C'est sûr, je sais qu'il y a il y a tout un parcours qui est proposé, qui est entier, qui est global.
Est-ce que, je précise ma question, est-ce qu'il y aurait une manière de suivre l'émission, en fait? On peut suivre ces 5 séries d'émissions, faut-il, je ne sais pas, prendre des notes, faire ce travail soi-même, ou nécessairement se tourner vers un accompagnateur, un prêtre?
c'est sûr qu'on ne se pose pas toujours les bonnes questions à soi-même quand on veut aller dans les profondeurs. Moi, je sais que j'accueille une personne, je me dis, cette personne, elle vient parce qu'elle a confiance. Et dans la mesure où elle a confiance, elle ne va pas être... quand elle va me parler, je vais chercher toujours la question qu'elle ne s'est jamais posée. Et si elle ne s'est jamais posé cette question seule, elle ne pourra pas se la poser, cette question. Par contre, moi, je vais lui poser parce que j'ai entendu ou senti ou vu qu'il y avait un paradoxe dans ce qu'elle me disait, qu'il y avait une contradiction, qu'il y avait une porte ou fermée ou une porte ouverte. Et je vais poser la question qui va clac. Je sais que c'est la bonne question parce qu'elle va être dans le silence.
C'est quand même, vous ne répondez pas tout à fait à mon interrogation. Parce que tout le monde ne peut pas aller voir oui. Daniel Desbois. Et en non, plus, non, je non, me non. suis interdit de vous donner votre email. Donc,
Non, il ne faut pas. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est quand je suis en difficulté, quand je souffre, il faut toujours aller voir quelqu'un.
Trouver un
soit
tiers.
Un ami, soit un accompagnateur spirituel, soit
un
thérapeute. Mais jamais rester seul dans la vase, non. Parce qu'on souffre et on détériore l'image que l'on a de soi et on rentre dans une indignité, dans une honte culpabilisante qui est inutile. Si j'ai mal, eh ben je vais aller voir. Quand j'ai une douleur, je vais voir le docteur. Eh bien, quand j'ai mal, je vais voir quelqu'un pour pouvoir parler.
On fait une première pause et puis on vous retrouve pour cette quatrième émission de cette série de Carême « Dieu peut-il guérir ?» sur le thème donc de la libération intérieure. Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, quatrième émission de notre série de carême avec Daniel Desbois, psychologue et cofondateur donc des Agapés du Puy-en-Velay, ces retraites de guérison intérieure. Et le thème de l'émission de ce jour est la libération intérieure. On est donc parti de l'Égypte, rentré au désert, et vous nous donnez à comprendre ce qui se vit au cœur du désert. Et donc au cœur du désert, il y a chacun doit faire face à son péché, à sa misère. Et en l'occurrence, vous avez un triptyque. Une blessure entraîne un péché capital, puis un péché secondaire. Vous allez nous expliquer ça. Péché, c'est vrai que c'est un mot piégé quand même pour beaucoup de gens. Pour ceux qui auraient du mal avec ce mot, tout simplement, vous le remplaceriez par quoi ? Ou comment vous le remplacez quand justement vous accueillez un communiste ? Vous me disiez pendant la pause, quand j'accueille un communiste en consultation, évidemment, je ne vais pas lui parler de péché.
Ben, je vais lui demander comment vous y prenez-vous pour être responsable de votre comportement. À peu près de cet ordre-là. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, la personne, quand elle vient, elle ne sait pas comment elle fonctionne. Elle ne voit pas les imbrications qui donnent, en fin de compte, une certaine logique de ce qu'elle vit, et particulièrement de sa souffrance. Elle ne se rend pas compte. Bon, bien sûr, elle va me dire, mais voilà mon histoire, à l'origine, ça a été ceci et cela. Donc ça, on en a déjà suffisamment parlé. C'est l'enfant dans son innocence qui a fait comme il l'a pu. Mais les années passant, elle grandit, cette personne, elle devient adulte, et puis elle est inscrite dans un comportement qui était adapté à l'époque, des mécanismes qu'elle a mis en place qui étaient justifiés à l'époque, mais qui aujourd'hui continuent à perdurer.
Mais juste, je reprécise ma question. À la place de péché, on peut dire quoi ? On peut découvrir la manière dont on est chacun lié, exactement, et dont on se lie aussi. Ouais, par nous-mêmes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On se ligote par soi-même. C'est ce que je voulais amener, en fin de compte. C'est quand tant que la personne n'a pas conscience de ces mécanismes et à un moment de sa responsabilisation, parce que la plupart du temps, les gens, je vois, quand je les entends, quand on fait quand les personnes sont prises un petit peu à défaut, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont se justifier. Pourquoi on se justifie ? Pour éviter de voir qu'est-ce que je cache derrière une justification. J'ai toujours besoin de défendre mon innocence. Alors au départ, nous, ce qu'on vient de dire, c'est qu'évidemment, il fallait défendre cette innocence tant que je suis petit. Mais quand je deviens grand, je ne peux pas continuer à vivre dans mon innocence. Et c'est cette bascule, ce passage de l'innocence à la responsabilisation qui fait difficulté. Mais une personne qui a le courage, parce qu'elle est en difficulté, qu'elle souffre, et qui vient demander aide, il est évident qu'on va prendre un certain temps, un temps nécessaire sur « c'est pas de ta faute, tu es dans ton innocence, tu ne pouvais pas faire autrement ». Mais à un moment, il va bien falloir basculer sur comment elle s'y est prise aujourd'hui pour être responsable de ce passé qu'elle continue à entretenir et à faire vivre. Là, vous voyez, c'est fondamental qu'elle ait conscience de cela.
Alors si on prend un premier exemple, une personne qui a été abandonnée, semble-t-il, aurait tendance naturellement à envier ce qu'elle n'a pas et ce que d'autres ont, et vous y associez donc le péché capital de la jalousie.
Oui.
On imagine donc un péché secondaire. Déjà, est-ce que vous pouvez faire le distinguo entre péché capital et secondaire ? C'est quoi ? Faites un peu de pédagogie.
Je vais vous donner c'est très, très succinct ce que je vais dire là, mais en fait, une personne qui a besoin de... Je vais prendre une tendance perfectionniste. Quelqu'un qui a une tendance perfectionniste et qui réussit, c'est toujours parfait. C'est toujours parfait ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'elle peut faire l'admiration de celui qui est beaucoup moins éloquent ou qui est beaucoup moins pratique dans ce qu'il a à mettre en œuvre. Le perfectionniste, à un moment, il peut être dans un excès. Donc, à vouloir tout contrôler, tout bien faire, et à un moment, il va y avoir une tendance à l'agressivité, parce que celui qui ne fait pas comme il l'aurait fait lui-même, ce matin, voilà, c'était le cas pour une personne. Quand la personne, elle est dans un excès, dans un débordement comme ça, il y a une agressivité latente qui est à l'intérieur d'elle, qui se manifeste, et que ce soit avec les enfants, avec le mari ou avec l'épouse, à un moment, elle devient trop. Et cet excès-là, c'est un péché secondaire. Le premier péché, ça va être la colère. Puisqu'il y a cette colère intérieure qui attend l'occasion de sortir dès qu'il y a une petite imperfection. Mais derrière, il y a un excès de toute puissance. Par exemple, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, hein, mais il y a quand même une tendance. Quelqu'un qui, pareil, a un besoin de réussir dans sa vie pour avoir des résultats, pour avoir des coupes à montrer, il a gagné ceci, il a fait ceci et cela, il devient aussi excessif, lui. Donc lui, celui qui veut réussir à tout prix, il a des astuces pour réussir. Il est prêt à être dans des compromissions, dans du mensonge. Et c'est vrai, politiquement, il y arrive. Il arrive à réussir, mais à un moment, c'est trop. Et là aussi, on est encore dans un péché secondaire qui va être l'excès.
Alors, vous vouliez prendre des exemples plus précis.
Alors, je vais vous en donner.
Si on part d'une des trois blessures donc, de Jean-Paul II, évoquée dans la première partie, vous vouliez prendre l'exemple d'une blessure de communion qui conduit à la colère et comme, on va dire, péché secondaire, au mensonge.
Oui, je pense à... C'est un homme, là, par exemple, hein, dans ce cas-là. C'est un homme qui vient, évidemment, il n'est pas bien, hein, il est abattu. Hein, et il me dit, je n'ai pas réussi mon couple. J'ai voulu éviter de faire comme mes parents et je ne suis pas arrivé. Donc il est là dans cette situation. Lui, c'est un drame pour lui. Mais ce qui est un drame pour moi quand je l'entends parler, c'est quand il me dit, suite à cela, j'ai loupé mon couple et je voulais pas faire comme mes parents. Et il me dit, je suis bouffé par la haine contre moi. Vous voyez déjà cet ennemi, là, cette haine contre lui-même. Et il me dit, jusque-là, j'ai réussi dans ma vie, moyennement, mais bon, j'ai quand même réussi dans ma vie, professionnellement, mais... Pour me rassurer, en fin de compte, j'avais besoin de petites réussites pour me rassurer, mais je n'ai pas su aimer mon épouse. Donc son drame pour lui, c'est de ne pas avoir réussi à aimer. Il a réussi un petit peu dans sa vie professionnellement, mais il n'a pas réussi à aimer. Et pour lui, c'est absolument terrible, je n'ai pas pu la garder. Et alors, je lui pose des petites questions sur son père, comment il était dans la relation avec son père. Et il me dit, mon père, il m'a dit... Tu seras prêtre un jour. Alors, bon, cette phrase, elle est rentrée. Quand il était jeune, il a pu l'entendre. Mais le problème, c'est qu'il a persisté, son père, à lui dire, tu seras prêtre un jour. Oui, mais un jour, il lui présente une jeune fille. Et il lui manifeste son désir de se marier avec elle. Et il lui répond, c'est pas pour toi. Une femme, c'est pas pour toi. Tu ne vas pas y arriver. Vous voyez, ça, ce sont des paroles de malédiction qui, je peux vous dire, ça reste ancré dans le cœur.
Hein. Quel est le rapport avec la communion, là, avec cette blessure d'identité
Pour le moment, je raconte l'histoire.
D'accord, allez-y.
C'est-à-dire que c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver. Bon, et évidemment, il a le cœur transpercé. Il a le cœur transpercé quand son père lui dit ça. Tu vas pas y arriver parce qu'il me dit, mais en fait, je me rappelle quand j'étais enfant et que j'avais des problèmes à l'école, que j'arrivais pas à comprendre, à faire les multiplications ou les soustractions, je faisais appel à lui. Et je l'agaçais vite parce que j'arrivais pas à comprendre. Et il me sortait toujours, mais tu vas jamais y arriver, mon pauvre fils. Donc c'était le « tu ne vas pas y arriver » qui était déjà inscrit dans son cœur. Et en fait, il a cheminé d'échec en échec. Et dans la relation, il a toujours eu des difficultés. Elle est là, la communion. La blessure. Il n'arrivait pas à être aimé, à être reconnu par les autres et par lui-même. Et en fait, quand il a connu cette femme, ça l'a boosté. Ça l'a encouragé de sortir de sa lignée d'échecs. Et il me dit, j'ai tenu pendant 5 ans. Donc c'était déjà pas mal, je me dirais. Mais en fait, il dit, j'ai tenu pendant 5 ans. Et puis à nouveau, j'ai recommencé à avoir peur de louper mon mariage. C'est-à-dire que le louper le mariage, c'est là qu'il m'a dit, j'ai repensé à ce que mon père m'a dit.
Alors, attends, Daniel Desboissé, je ne veux pas vous empêcher de parler, mais je veux quand même essayer de suivre au maximum.
Oui.
Dans cette deuxième partie, vous êtes censé nous expliquer la blessure, le péché capital et le péché secondaire.
Oui.
Pour cet exemple, la blessure, quelle était-elle, si on revient au triptyque de Jean-Paul II?
C'est-à-dire que la blessure, c'était, j'ai pas correspondu à l'attente de mon père. Il m'a dit, tu seras un prêtre. Et puis moi, je me suis marié. La blessure, elle est là, en fait. Donc ça, c'est ce qui a entraîné...
C'est ce que vous appelez une blessure de communion, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ouais, là, c'était une blessure de
communion. Alors, le péché capital que ça entraîne, quel est-il?
Alors, le péché capital, c'est que un jour, son épouse, c'est là qu'il s'est révélé, on a pu en parler, un jour, son épouse, parce qu'il n'était pas, au top hein, avec elle, hein, évidemment, il était en difficulté. Un jour, son épouse, elle était attirée par un autre homme. Mais elle dit que ça a été symbolique, ça n'a pas été trop loin, mais quoi qu'il en soit, il a pris une claque hein, quand elle a été attirée par cet homme-là. Et il me disait, et là j'ai explosé de colère. Il est là, le péché capital. Pour lui, en fait, il a la colère qui, tout d'un coup, il a l'occasion de la sortir alors qu'il ne l'avait jamais sortie. Donc, à un moment, ben, c'est bien évidemment, c'est sa femme qui a tout pris. Mais après, à mesure qu'on en a parlé, à mesure qu'on a développé cette colère, il s'est rendu compte que cette colère n'était pas adressée à sa femme, que cette colère était adressée à son père qui était derrière. Parce qu'en fait, il le reconnaît avec beaucoup d'humilité. Il me dit, elle m'a trompé comme ça. Mais moi, je l'ai trompé en allant sur Internet, sur des sites qui n'étaient pas très nobles. Eh bien, vous voyez, le péché capital, ça a été pour lui la colère. Et quand il a avoué qu'au fond, à sa manière, il l'a trompé, il m'a dit, je suis rentré toujours dans une hypocrisie avec elle.
Ça, c'est le quoi? C'est le péché secondaire?
Le mensonge.
Le mensonge.
Péché secondaire, c'est le mensonge. Donc, quand il y a alliance entre et action entre le péché capital et le péché secondaire, la personne est en grande difficulté. C'est évident. Et en fait, ce sont ces obstacles-là qui font l'esclavage. Le véritable esclavage, il est là. Ce n'est pas le fait d'être enfermé seulement dans un chemin de survie. Le chemin de survie dont on a déjà parlé, ce qui nous intéresse, c'est de déloger les péchés capitaux qui m'empêchent de passer le Jourdain, c'est-à-dire d'aller en terre promise. C'est parce que le Christ m'attend là. La croix est plantée là et je vais buter sur cette croix à cause du péché capital. Et je ne passe pas en terre promise à cause de cela.
Et donc on aurait tous des dominantes en fait. On aurait tous des péchés capitaux qui
Absolument.
Seraient nos dominantes.
Absolument. On est tous soumis à cela. Mais c'est pas grave en soi. Ça va être, disons, l'épine dans la chair. C'est-à-dire l'important c'est de le connaître. Pas pour s'en condamner. Dire attention, Daniel, ta fragilité est là. Sache que quand tu vas être en vulnérabilité, le risque, quand on est en vulnérabilité, c'est là que le péché capital et secondaire, ils sortent d'un de ses os. Quoi.
Est-ce que vous pouvez prendre un deuxième exemple qui concerne cette fois donc la blessure d'identité? Là, le péché capital, ce serait donc l'avarice et qui conduirait à la méfiance, si j'ai bien compris.
Oui.
C'est ce que vous m'aviez promis en tout cas.
Oui, d'accord. Je vais essayer de vous satisfaire. c'est un homme. Alors là, c'est la blessure d'identité. C'est la blessure d'identité. C'est un homme qui vient. Alors, j'ai de suite pigé que c'était la blessure d'identité parce qu'il me dit j'ai peur de la vie. C'est-à-dire, j'ai peur de la vie. Pour moi, déjà, ça veut dire qu'il y a une blessure quelque part. Qui l'encombre, je ne sais pas quoi.
Donc on rappelle la blessure d'identité, c'est une...
Quand je ne suis pas accueilli voilà. pour ce que je suis.
On n'est pas désiré.
On n'est pas désiré. Alors évidemment, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui lui fait dire que j'ai peur de la vie. Et il me rajoute, j'ai peur de la vie parce que j'ai peur des femmes. Putain, je ne voyais pas bien le lien en fin de compte. Et j'essaie de déloger, moi l'oreille elle grandit quand j'entends une croyance. Et il me dit... Alors je lui demande, mais en fin de compte, qu'est-ce qui l'amène à avoir peur des femmes? Et il me dit, mais vous savez, s'engager avec une femme, c'est s'investir avec une personne qui pourra peut-être à un moment ne pas être fiable. Et elle risque de me laisser tomber. Donc je lui dis, tiens, il a peur d'être abandonné en fait. C'est ça la blessure d'identité, la peur d'être abandonné par, là, dans ce cas-là, par une femme. Et il me dit, j'ai tellement peur donc, d'être abandonné par une femme que je me sauve au moment de l'engagement. C'est-à-dire que quand elle va me dire, ben, je suis prête à vivre ma vie avec toi, crac, il se sauve, lui. Et je lui demande, mais vous l'avez fait souvent, ça? Il me dit, ça fait la sixième personne. Et là, il en souffrait, quoi, vraiment. Il dit, c'est la sixième expérience et je suis toujours à courir, à fuir. Dès l'instant, on me choisit. Parce que, dans mon cœur, j'ai le risque d'être abandonné un jour ou l'autre par une femme.
Donc, ça, c'est la blessure.
Oui.
Le péché capital, quel est-il?
Alors, attendez. On va d'abord essayer de comprendre.
Oui, comme je suis pressé, hein, mais moi, je vois le temps qui passe.
Ah oui, d'accord. Bon, je vais quand même essayer de vous donner des éléments importants. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui l'a amené, en fin de compte, à avoir cette crainte. Et il me dit, à ma naissance, j'étais imprématuré. Maman n'était pas là. Au moment donc il est venu, il est resté un beau moment seul, séparé de sa maman. Et il dit, j'ai vécu 6 ans après la même chose, quand mes parents se disputaient, ma mère quittait l'appartement. Donc dès l'instant où il y avait la femme qui s'en va encore, la maman qui s'en va encore, elle quitte et elle laisse le gamin planté comme ça. Donc vous voyez comment une blessure d'abandon qui a été donc au moment de la... parce qu'il était prématuré, qui a été répété à chaque fois qu'il y avait des disputes un peu fortes et que la maman partait, elle laissait son gamin là. Vous voyez comment ça a été réactivé. Et ce gamin, mais qu'est-ce que vous voulez, il a été en méfiance. Péché capital par rapport aux femmes. À ce moment-là,
le péché capital, c'est la méfiance.
C'est la méfiance. Le péché capital, pour lui...
Je ne connaissais pas ce péché capital.
Eh bien oui, mais vous savez, il n'y a pas que les péchés capitaux, on va au-delà.
Il
hein,
n'y a pas que les sept qu'on connaît.
Non.
D'accord.
Voilà.
Là, donc c'est une terminologie...
Oui, c'est la peur. En fait, la peur, elle n'est pas désignée comme péché capital, mais en fait, la peur, elle est partout. C'est-à-dire que dans toute personne, quelque part, une peur. On a la peur de mourir, on a peur de perdre l'amour. Oui. Donc son péché capital à cette personne, c'était la méfiance. Et le péché secondaire, ça a été quoi? Ça a été, pour elle, ça a été l'avarice. C'est-à-dire le refus de se donner à l'autre. Dès l'instant où je garde possession de moi-même, pour lui, l'avarice, c'est lui-même qui l'a reconnu. C'est d'éviter de se donner, c'est-à-dire qu'il arrivait à séduire la femme, mais pas jusqu'à se donner. Il se gardait à lui-même. Voilà, péché secondaire. Donc ces deux qui sont actifs empêchent la personne d'être dans l'amour, dans la vérité, dans la vie.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, j'avais une question. Alors j'espère que ça n'est pas une question piège, mais on se dit que là, si on est en train de marcher dans la fournaise et dans le cœur du désert, à vous entendre, puisqu'on découvre ces mécanismes de mort en fait, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que bien souvent, pardon de la distinction, mais au désert, il est entendu qu'on a déjà choisi de faire du chemin. En tout cas, c'est ce que vous laissez entendre par cette image. On imagine pourtant qu'une personne qui a déjà eu un peu un regard sur son histoire, qui a découvert un peu sa forme d'esclavage, qui a déjà, comme dans vos agapés, parfois reçu la prière de quelqu'un, elle connaît ce genre de choses, non ? On peut être chrétien, pratiquant, se connaître et en fait retomber comme ça, comme constamment oui. dans des mécanismes de mort.
Ben oui, on retombe dans les habitudes. C'est pour ça que, je ne sais plus à quelle émission, c'était la première ou la seconde, oui, c'est peut-être la seconde, je disais qu'on peut faire des fois X retraites et on se rend compte que 2 mois après, 3 mois après, curieusement, même si on est en progrès, on se dit quand même, comment ça se fait que je rechute et je tombe toujours dans les mêmes travers. Pourtant, la grâce a été donnée à l'occasion d'une retraite, d'une belle retraite, elle vit puis elle repère à nouveau. Ça veut dire qu'il y a... il y a cette tendance naturelle à perdre l'effet de la grâce. C'est pour ça qu'on avait, à l'occasion d'une de nos rencontres, parlé de la transformation de la grâce. C'est-à-dire, la grâce est donnée, mais j'ai la responsabilité de cette grâce pour la transformer, qu'elle devienne véritablement un acquis intérieur. Mais c'est vrai que ça échappe. C'est là qu'il y a un combat, véritablement un combat spirituel. Et puis j'avais parlé, pour moi c'était très important, j'avais parlé du cerveau et qu'on a des modes de pensée qui sont encore actifs parce que ça fait tellement longtemps que je pense comme ça. Quand j'ai une croyance limitante, ça fait tellement longtemps que je pense comme ça que je n'ai même plus besoin de penser, le corps pense à ma place.
Et vous disiez même que ça s'inscrivait dans le corps.
Ça s'inscrit dans le corps.
On va faire une deuxième pause, Daniel, et puis on va vous retrouver pour continuer pour maintenant voir comment on peut sortir de ces enfers intérieurs, donc de ces déserts, en ayant pris conscience de cela déjà, en ayant fait comme un tableau en fait, en ayant extériorisé et visualisé ces difficultés, mais vous allez nous expliquer évidemment par aussi l'importance des pratiques, ce qu'on appelle les vertus humaines et théologales. On vous retrouve dans quelques instants.
De nosotros. los pecados del mundo. Ten compasión de nosotros.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel pour ceux qui nous prendront en cours de route. Donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce lundi, quatrième émission de notre grande série de carême sur le thème donc de la libération intérieure. J'ai compris donc qu'au cœur du désert, on découvre nos enfers intérieurs. Et nos enfers, c'est que les blessures que l'on porte, les blessures les plus profondes, les plus graves, sont en fait les lieux où on est le plus profondément lié, parfois même sans s'en rendre compte. C'est ce que vous avez laissé entendre, jusqu'à être marqué dans son corps, dans son psychisme, par des habitudes. Et donc ça entraîne à ce que vous appelez donc ces péchés capitaux et ces péchés secondaires, ces péchés capitaux étant à entendre hein, donc de manière plus large que ce qu'on en dit habituellement. Alors, comment sortir de ce désert, Daniel Desbois, vous m'avez laissé entendre que c'est par la pratique de des vertus humaines et théologales que l'on peut en sortir, mais vous insistez d'abord sur l'importance du choix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ce travail de désensablement intérieur, on est tous immanquablement un jour devant un choix. Et sans choix, rien ne peut venir.
Oui, sans choix, c'est-à-dire il faut choisir de changer. Il faut, quand on dit convertissez-vous, ça veut dire faites le choix. Mais vous êtes libre de ne pas le faire. Tu as devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ça veut dire que bon, je peux aussi choisir la mort ou continuer à choisir la mort, même si je connais le chemin de vie que je devrais emprunter. C'est pour ça que c'est symboliquement, c'est pas par hasard que le peuple a tournicoté pendant une quarantaine d'années, ce temps de purification, de préparation à l'intégration de la parole de Dieu, des commandements, on en est tous au même point. J'entends de temps en temps les personnes qui me disent « je sais ce que j'ai à faire et j'arrive pas à m'y mettre ». Une personne me disait, c'était aujourd'hui en fait, une personne me dit « je n'arrive pas à donner encore la priorité à la vertu ». Donc elle a conscience, c'est-à-dire elle connaît la chose, mais elle n'est pas prête. Mais je dis, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir conscience que je sais vers quelle vertu je vais devoir passer pour pouvoir me sortir de là.
Alors, reprenons les exemples que vous citiez tout à l'heure. Donc, le premier exemple, c'était donc cet homme, son père avait posé ses paroles terribles, en fait, en disant qu'en gros, il n'était pas capable d'avoir une relation conjugale, et il le destinait par ses paroles à la prêtrise. Vous disiez que c'était une forme de blessure, donc de communion ou de participation. Quelqu'un prend autorité sur moi, et du coup, je suis privé d'être capable d'une vraie relation d'amour. Son péché capital, c'était la colère. Ça le mettait dans le fond, dans une rage et une haine terrible à l'égard de son père. Et le péché, on va dire, collatéral ou secondaire, c'était qu'il vivait dans l'habitude d'une forme de mensonge. Comment cet homme, comment accompagner cet homme? Qu'est-ce qu'il devait exercer comme vertu humaine ou théologale pour arriver à s'en sortir?
Alors, ça a été la vertu qui était accolée, en fait, à la colère, c'est la douceur. La douceur, la compassion, c'est-à-dire arriver à aimer l'autre, et particulièrement aimer celui qui, justement, lui a fait du mal. Donc là, dans le cas de cet homme-là, c'était son épouse qui, à un moment, va être attirée par quelqu'un d'autre. Eh bien, arriver à l'aimer, ça a été possible seulement quand il a pris conscience que lui aussi était dans... Ben, il trichait aussi, puisqu'il allait sur les sites. C'est pas le tout parce qu'à un moment, je lui ai dit...
Sur des sites pornographiques.
Je lui ai dit, c'est pas le tout, parce que si vous désignez votre épouse parce qu'elle est infidèle, est-ce que vous pensez que vous êtes fidèle en allant sur les sites? Et c'est vrai qu'il a vu qu'il y avait un paradoxe. Et c'est en prenant conscience de son propre péché à lui qu'il a pu envisager d'accepter que sa femme ait pu avoir un temps de dérive. Et là, la colère, elle s'est adoucie tout d'un coup. Et là, il me dit, je comprends maintenant. Je comprends que j'ai besoin de lui pardonner. Et là, son cœur commençait à s'attendrir. Et c'est vrai que quand on a parlé justement de la douceur, c'est une grâce qui t'a demandé. C'est pas un effort humain quand on est dans le péché capital.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est une vertu humaine, la douceur?
Voilà, ça fait partie des vertus naturelles aussi. On peut être doux, mais... dès l'instant où on touche le péché capital, on sait qu'on va toucher le cœur de Dieu. On va toucher le cœur du Christ. Et là, on a besoin de sa miséricorde. On a besoin de sa douceur à lui. Qu'il vienne y mettre une onction, qu'il vienne y mettre une grâce que moi, humainement, je ne peux pas. Justement, parce que là, il était question de demander pardon à son épouse. Hein, et ça a été fondamental. Et en fin de compte, de se pardonner à lui-même d'avoir eu une telle haine contre elle et contre lui-même, parce qu'il a, j'avais évoqué qu'il avait une haine farouche contre lui parce qu'il avait loupé son couple. Mais là, il se rendait compte qu'il pouvait le restaurer par l'usage de la vertu de compassion et la vertu de douceur. Et ensuite, bien sûr, il avait aussi à faire un choix d'authenticité par rapport au mensonge, qui est le péché capital pour lui, secondaire. Ce péché secondaire, quand il a pris conscience qu'il était dans l'hypocrisie, il avait besoin de faire plus appel à la vérité, à l'authenticité, parce que jusque-là, il se rendait compte que lui aussi, pendant des mois, il a triché. Donc, demander la grâce. Bien sûr, on va voir le prêtre pour demander, bien sûr, le sacrement de réconciliation, que le Seigneur pardonne. Mais ensuite, la vertu, le Seigneur pardonne, mais la vertu, elle appartient à l'homme. Dieu fait sa part, mais l'homme doit faire aussi sa part. C'est l'usage de la vertu et le chemin de sainteté qui appartient à l'homme.
Alors si vous deviez continuer à nous aider à comprendre, si on prend le deuxième exemple de cette personne qui avait été blessée dans son identité et dont le fruit était comme péché capital, donc la peur, qui entraînait l'avarice, qu'est-ce que vous nous donneriez comme posologie?
La posologie, la vertu par rapport à la méfiance, ça va être, c'est normal, ça va être la confiance. Alors c'est vrai que, en fait, je me rends compte que la confiance, des personnes qui sont blessées, que ce soit dans la blessure d'identité, de communion ou de participation, c'est rare que les personnes ne me parlent pas du manque de confiance qu'elles ont en elles, parce que malgré tout, l'identité, elle est encombrée. Elle est encombrée, leur identité, justement, au point, elle est encombrée, entre autres, du péché capital, hein, et du péché secondaire. Mais là, dans ce cas-là, cette personne qui avait peur de s'engager avec les femmes, parce qu'au fond, il y a eu un écho avec ce bébé qui était prématuré, après cette maman qui partait quand il y avait des conflits dans le couple, et puis qu'elle devait, voilà, qu'elle partait pour aller respirer un petit peu. Il est évident que cet homme qui s'est construit sur la méfiance s'est rendu compte qu'en fin de compte, mais il était méfiant dans tout. Il était méfiant dans tout, il observait, il cataloguait les gens parce que, mais particulièrement les femmes, c'était pas n'importe qui, et particulièrement les femmes qui tombaient amoureuses de lui. Et en fait, dès l'instant où il a compris que, il a mis du temps, hein, mais dès l'instant où il a compris que cette méfiance était, donc son péché capital était une catastrophe au niveau de sa vie, de couple, pour avoir une petite famille aussi, ça a été... Vraiment l'ouverture de cœur.
Mais alors, quelle a été la vertu qu'il a développée?
La vertu de confiance. Alors là, c'est pareil. Parce que, en fait, quand je vois là tout ce qui
la vertu de confiance, c'est pareil, c'est comme la douceur. Est-ce que vraiment on peut exercer une vertu de confiance? Ça paraît un peu volontariste, non? L'exemple que vous prenez à chaque fois est un peu entre la grâce à demander et la vertu à pratiquer.
La vertu à pratiquer, c'est la confiance. Mais là, on va dire, la confiance, il suffit d'avoir un bon manager. En psychologie, on sait faire, hein, mettre les gens en confiance par des pratiques, faire du saut à l'élastique, je ne sais quoi. Mais c'est pas ça, c'est une confiance, c'est une vertu tout à fait humaine. Sans être chrétien, on peut faire des démarches pour apprendre à être confiant, pour vivre un peu plus en confiance. Là, on est dans le spirituel. Donc c'est une vertu spirituelle. C'est-à-dire la confiance, c'est vraiment demander. Là, c'est pareil, hein, c'est « Seigneur, mets dans mon cœur cette certitude que tu es là. C'est toi qui vas me rassurer. » La confiance est donnée par grâce. Elle n'est pas acquise par la force du poignet. Elle est donnée par grâce. Et là, c'est ce naturel qui est à demander au Seigneur pour avoir justement la possibilité de s'abandonner dans des situations telles que celle-ci.
Alors, vous vouliez insister aussi sur une prière qui intervient dans le cadre donc de ces retraites de guérison, de ces agapés. Vous nous avez parlé donc dans l'émission précédente de la prière de consolation, cette prière des frères, comme on dit aussi dans certains, peut-être particulièrement dans certains milieux charismatiques, parfois une prière de délivrance. Et là, vous parlez d'une prière de visitation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prière de visitation, Daniel Desbois?
Alors, c'est demander au Seigneur de venir visiter justement ces comportements qui m'enlisent dans mon péché capital et dans mon péché secondaire. Vous savez, quand on a délogé un chemin de survie, on a compris son schéma de vie, et on se rend compte que la personne a la conscience de tout cela. Et donc, elle veut sortir de là. Et ce que je vous disais à l'instant, c'est que la personne ne peut pas s'en sortir toute seule. Sinon, elle va le faire à la force des poignets, mais là, on est dans la psychologie pure. Là, non, c'est « Seigneur, moi, je suis dans mon incapacité. Seigneur, viens me sauver. » C'est vraiment le cri vers Dieu qui va faire que, si la personne est sincère, parce qu'en fin de compte, c'est pas magique, je vais dire « Bon, ben, je vais demander la prière. Je vais demander une certaine prière qui s'appelle la prière de visitation. » Je vais en reparler un petit peu, là. Je vais demander la prière de visitation, et puis ça y est, moi, je vais retrouver une vie... Je vais retrouver une vie cool. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. La prière de visitation, c'est vraiment... il faut que je sois sincèrement dans la foi que Dieu va venir me visiter et va faire un nettoyage à l'intérieur de moi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne qui justement a vécu dans la réussite à tout prix. Ben, la prière de visitation, ça va être de... viens Seigneur particulièrement visiter, c'est le prêtre, hein, qui va faire aussi cette viens Seigneur le visiter particulièrement dans son intelligence pour qu'elle n'ait plus l'obligation de résultat. Seigneur, viens la visiter, qu'elle soit soulagée, viens visiter ses oreilles. On utilise de l'huile de l'eau de Saint Joseph. Viens le visiter, on met une petite marque sur ses oreilles, viens visiter son audition. De toute parole qu'elle a pu entendre, aujourd'hui elle n'a plus besoin de se battre, de se débattre, qu'elle se repose. Seigneur, viens lui donner la grâce de se reposer. Viens visiter ses yeux aussi, qu'elle ait un regard bienveillant sur elle-même et sur les autres. Voyez, et puis aussi, viens visiter sa bouche pour tout ce qui est une avidité pour la réussite, c'est ça. On est dans l'avidité de réussir matériellement, de réussir relationnellement, etc. Donne-lui la juste mesure. Voilà une prière de visitation. Et là, l'onction est donnée. Si la personne est dans une foi ouverte, cœur ouvert, le Seigneur agit. Et c'est évident qu'elle va passer c'est une révolution copernicienne, elle va passer d'un avant à un après. Et là, elle est en terre promise.
Eh bien, c'est bien, ça nous fait une parfaite introduction pour la dernière émission. On prendra peut-être le temps, hein, de repréciser ce qu'est cette dernière étape, on va dire cette antichambre de la Terre promise. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu ce matin au micro encore de Vivante Église. On peut redonner, avant que vous nous fassiez part lors de la dernière émission d'une bibliographie plus exhaustive, redonner le titre de cet ouvrage de François Buet, qui est donc aumônier de ses retraites agapées à Notre-Dame-du-Puy, ancien médecin en soins palliatifs et prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie, auteur d'un ouvrage de la libération à la vie dans l'esprit, paru aux éditions Nouvelle Cité, de la libération à la vie dans l'esprit, François Buet, paru aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.